Mais où va le travail ? Un podcast qui s'interroge à la fois sur le sens dans le travail et sur le sens du travail. Produit par Orientation Durable et réalisé par Making Waves.
Le sens dans le travail, ça se trouve notamment dans les associations, mais aussi dans les missions de service public ou les partis politiques. Et figurez-vous que notre invitée, Chloé Ridel, est justement haute fonctionnaire et porte-parole du Parti Socialiste et a été présidente d'une association et même directrice adjointe d'un think tank. On peut donc se permettre de penser qu'elle s'est déjà, à un moment ou à un autre de sa vie, interrogée sur comment être la plus utile possible du lundi au vendredi de 9h à 18h ou en heure sup. On en parlera avec elle et au risque de spoiler, on verra qu'elle se pose régulièrement une question universelle. Quand est-ce qu'on change les choses vraiment plutôt que de tourner en rond ? Mais avant tout ça, on va commencer par faire connaissance avec elle en parlant de l'influence de la valeur travail dans sa vie. Bonjour Chloé Ridel.
Bonjour.
Il est arrivé comment le travail dans votre vie ? Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez entendu parler de cette notion dans l'enfance ?
Le travail dans ma vie, il est arrivé avec l'école, l'entrée à l'école. Mes parents étaient très très stricts sur notre réussite à l'école, qu'il fallait être extrêmement sérieux, qu'il fallait faire ses devoirs, etc. Nous, on était 5 enfants, donc une famille nombreuse. Et s'il y en avait un qui ramenait une mauvaise note, c'était la punition collective. Enfin, voilà.
Punition collective, c'est là, s'il y en avait un qui avait une mauvaise note.
On avait plus le droit de regarder les dessins animés, quoi.
Votre frère, votre sœur.
Ouais, mais c'est arrivé.
Ah, quand même.
Ouais, c'est arrivé, je me rappelle. Je crois que mon frère était en CE2, donc je devais être en 3e, en CP. Et il avait ramené un 6 sur 10, donc un truc pas si dramatique que ça. Et on avait été interdit de regarder les dessins animés à la télévision. Voilà, mes parents avaient un stress, en fait. Mon père était issu de la classe populaire, ma mère de la classe moyenne. Donc pour eux, l'école, c'était la seule façon de bien réussir sa vie, réussir à l'école. Voilà. Et donc, ils ont mis un point d'orgue à ce qu'on réussisse et à être très strict là-dessus, quoi. Donc c'est ça le premier souvenir que j'ai, c'est par mes parents.
Il est marquant, c'est rien de le dire. Et est-ce que dans votre environnement, parmi vos amis, à cet âge-là ou un peu plus tard, ado, il y avait des amis qui avaient une certaine distance avec le travail, pour pas dire des glandus?
Ouais, j'avais de tout dans mes amis, mais en fait, je me suis aussi rendu compte, comme moi, je connaissais que mon environnement familial, voilà, où c'était très strict, voilà. J'ai aussi vu que y avait des gens qui avaient un rapport différent que moi à l'école, au travail. Moi, j'ai jamais été dans les premières de la classe. Hein. J'étais une bonne élève, mais j'ai jamais été première de la classe. Mais j'ai jamais eu de difficultés à l'école. Mais j'ai vu des tas d'amis à moi qui, sans avoir été d'excellents élèves, voire de très mauvais élèves, ont quand même réussi leur vie, parce que réussir sa vie, ça tient à autre chose que ça. Je pense qu'il faut quand même toujours du travail. Moi, je dis souvent qu'il n'y a pas de talent, ça n'existe pas, le talent. C'est le travail.
La phrase de Georges Brassens, le 2% de talent et 98%,
bien sûr.
98% de travail.
Bien sûr, ça, je l'ai vérifié. Enfin, je l'ai vu tout au long de mon existence. Et puis, enfin, quand on parle de talent, on occulte aussi tout l'environnement qu'il peut y avoir autour d'une personne. Est-ce que ses parents sont là pour le soutenir ou pas ? Oui, c'est sûr qu'on a un talent plus facile quand on a une famille derrière qui nous a donné accès à telle ou telle connaissance, à tel ou tel objet culturel. Enfin bon. Mais ouais.
Et vous, le capital culturel, il était là, même si votre père était d'origine
pas trop
populaire ?
En fait, ça dépend ce qu'on entend par capital culturel. Mes parents ne sont pas des gens, on peut dire, qui sont cultivés. Ce n'est pas des gens qui sont particulièrement cultivés. Pour autant, ma mère avait un amour de la lecture et donc nous a donné des livres, en fait, toujours. On lisait, on a pris l'habitude de lire tous les soirs.
Dans le fait de travailler, on était dans une sacrée discipline. Si effectivement tout le monde était privé de dessins animés, s'il y avait un 6 sur 10, dans notre famille, 6 sur 10, on sort le champagne. Mais il y avait aussi ce côté par rapport à la culture où on était beaucoup plus dans l'amour, où j'imagine que c'était pas pour que vous progressiez, que votre mère vous filait ses bouquins, c'est pour
non,
vous
non, c'est aimer. Vrai. C'est parce qu'elle aimait, elle, la littérature, sans être une énorme lectrice. Moi, aujourd'hui, je suis une lectrice. Et j'ai pu rencontrer la littérature. Ce que j'appelle rencontrer la littérature, c'est... moi, je lis genre 100 livres par an, 150 livres par an. Mais ça, je le suis devenue qu'à 23 ans. Mais j'ai pu le devenir parce que, dès l'âge de 9 ans, ma mère me passait des livres. Le premier, c'était un livre de Marcel Pagnol qui s'appelait La gloire de mon père. Et de prendre cette habitude de la lecture, il y a des tas d'études qui montrent, d'experts, que ça aide à développer le cerveau quand même, de faire lire un enfant, même ne serait-ce que 30 minutes par jour. Ça permet un développement cérébral, ça permet de stimuler dans le cerveau des zones qui sont favorables à la mémoire. Donc c'est très important aussi.
Vous dites que c'est à 23 ans que vous êtes remis à lire en grande partie. Est-ce que derrière ça, il y a... C'est Daniel Pennac qui en parle très bien dans l'essai « Comme un roman ». Il dit qu'il y a un défaut dans la façon dont on apprend la littérature aux enfants. On leur raconte des histoires, on est dans le plaisir, et d'un coup, au collège, on leur dit « maintenant, tu es obligé de lire ». Et il y a pas mal de gens, j'en fais partie, il a fallu qu'ils soient adultes pour justement qu'ils disent « mais c'est génial la lecture maintenant que c'est plus obligatoire ». Vous avez connu ça ou...
Ouais, je me reconnais tout à fait dans ce témoignage. Et justement, c'est vrai qu'on nous inculque une vision très très scolaire de la lecture, parfois à l'éducation nationale, et du coup on s'oblige à lire un livre du début jusqu'à la fin, alors que Daniel Pennac, je me rappelle, dans son roman, il dit mais on est libre quand on lit, on peut sauter des pages, on peut ne pas finir un livre, on peut commencer par la fin d'un livre, on peut, voilà. Et donc il nous donne effectivement un accès à la littérature. C'est pas facile hein, de rencontrer la littérature, comme on dit, c'est même ardu. Mais une fois qu'on l'a fait, je trouve que c'est vraiment un enrichissement énorme, parce que c'est aussi une activité, la lecture, qui ne pollue pas, mais qui permet de se reconnecter à soi, d'être dans un moment de silence, de solitude. Et je trouve que même dans une période comme la nôtre, dans un siècle comme le nôtre, où on est abreuvé tout le temps d'informations, de stimulation cérébrale, ça permet de reposer le corps et l'esprit.
Vous dites que vous n'étiez pas dans les meilleurs élèves. Vous avez fait Sciences Po, vous avez fait l'ENA. Est-ce qu'il y a un moment de votre vie où vous vous êtes dit « je vais essayer de faire partie des meilleurs, je vais passer un braquet pour justement arriver à ce niveau-là de réussite scolaire
?» Bah c'est vrai que je pense que dans ma vie, parfois je manquais un peu de rigueur quand j'étais au primaire, au collège, même au lycée. J'avais des facilités quand même. Et bon, après, j'étais pas dans les 10 premières de la classe, mais à la fin, j'ai quand même eu mon bac avec une mention très bien. Donc,
vous étiez dans une classe vraiment excellente, sans être dans les 10 premières. Vous avez fini avec mention très bien.
Ouais. J'ai remonté au moment du bac. Je pense que et par la suite, vous l'avez dit, j'ai passé les concours. J'ai passé le concours de Sciences Po, j'ai passé le concours de l'ENA. Je pense que je suis meilleure pour des concours que dans une sorte de contrôle continu. En fait, je sais me mobiliser fortement autour d'un objectif et tout faire pour, enfin, travailler pour l'atteindre. Voilà.
Merci beaucoup. Vu qu'on vous connaît un peu mieux maintenant, on peut parler du travail avec du sens et de votre vision de celui-ci. Il existe une question universelle dans les boulots avec du sens, une question qui n'est d'ailleurs pas totalement anodine dans l'histoire du Parti Socialiste dont vous êtes porte-parole. Est-ce qu'il faut respecter le système et s'y adapter, ou est-ce qu'il faut, parfois, chercher à changer le système en question ? On va écouter sur le sujet votre réaction à un échange entre Patrick Pouyanné, président Total Energy, et Jean Jouzel, climatologue, lors de la dernière université d'été du MEDEF. Résumé des épisodes précédents, Jean Jouzel vient à cette réunion pour rappeler que si on veut contenir le changement climatique sous les 2 degrés, il est nécessaire d'arrêter immédiatement les nouveaux projets dans les énergies fossiles. Patrick Pouyanné le prend un peu pour lui et lui oppose alors ce qu'on pourrait appeler une fin de non-recevoir polie. Il explique que c'est bien joli tout ça et qu'on y arrivera sans doute un jour, mais que là maintenant, sa priorité reste la réponse à la demande croissante d'énergie et qu'il doit avant toute chose assurer la sécurité d'approvisionnement au coût le plus efficace. On écoute votre réaction à tout ça quelques jours plus tard dans l'émission C'est ce soir sur France 5.
Fondamental ce que vous dites là, c'est-à-dire que la passe d'armes que vous avez eue avec M. Pouyanné montre que la jolie image du consensus, ouais, avec le monde économique, l'écologie du contrat, même si c'est souhaitable, malheureusement n'est pas très crédible. Et que ces gens-là, au MEDEF, ils savent lire vos chiffres, ils connaissent la science, ce n'est pas des idiots. Ils ne sont pas climato-sceptiques. Non. Ils ne veulent simplement pas agir si cela va contre leurs intérêts économiques largement déterminés à court terme. C'est ce qui fait que Total annonce au Suriname un nouvel investissement dans un gisement de pétrole qui commencera à opérer en 2024. Donc face à ces acteurs économiques-là, on ne peut pas être dans l'écologie du contrat, on ne peut pas être dans l'écologie du consensus. Il faut assumer un rapport de force. Et honnêtement, alors, moi, ma génération, on est inquiète et on en doute que vous en soyez capable quand vous arrivez, par exemple, même pas à récupérer les super profits de l'industrie agroalimentaire dans un contexte d'inflation.
On a la première loi qu'on a votée.
Première question, très classique, qu'est-ce qui vous a pris? Pourquoi cette réaction? Qu'est-ce qui a motivé cette réaction de votre part?
Bah parce que moi, j'ai trouvé que cet échange entre Jean Jouzel et Patrick Pouyanné, il éclairait parfaitement la tragédie en cours. C'est-à-dire que vous avez d'un côté un scientifique, de l'autre un grand patron, en l'occurrence un grand patron d'une entreprise d'énergie fossile. Et la vision de l'un et de l'autre s'affronte totalement. Vous avez un scientifique qui, de son côté, dit la vérité des chiffres, dit la science, dit « bah voilà, il nous reste 3 ans ». Au niveau des missions actuelles, sinon on ne remplira pas les objectifs de l'accord de Paris. Donc, tout simplement, il faut diminuer notre consommation d'énergie fossile, en sortir progressivement, etc. Bon, des trucs basiques que tout le monde sait. Et en face, vous avez un patron qui lui répond que oui, c'est bien gentil, mais en même temps, il y a la vie réelle, et la vie réelle, c'est de la demande de pétrole. Et donc, moi, je fournis cette demande. Et en réalité, Patrick Pouyanné, quand il parle de la vie réelle, il a raison, parce que la vie réelle, c'est une vie réelle très carbonée, où le train coûte beaucoup plus cher que l'avion parfois, que les déplacements en voiture, où toute une partie dépend de sa voiture pour aller travailler, pour vivre tout simplement, où on importe de l'autre bout du monde des tas de produits, notamment on importe de Chine nos panneaux solaires. Donc pour faire de l'énergie renouvelable en France, alors que ces panneaux solaires chinois, ils sont produits à partir de charbon, puisque 75% de l'électricité chinoise se fait au charbon, qui sont acheminés jusqu'à nous par pétrole. Enfin, la vie réelle, c'est ça. Et donc Patrick Pouyanné, il a raison quand il dit « la vie réelle, c'est ça ». Sauf que, en fait, cette vie réelle-là, qui nous tue à petit feu, elle fait bien ses affaires. Et donc Patrick Pouyanné, lui, il ne voudra changer que si ça fait ses affaires. Donc ce que j'en tire comme conclusion, c'est qu'il faut évidemment un rapport de force avec ces entreprises-là qui n'ont pas intérêt à changer et qui protègent leur intérêt social. Moi, c'est leur rôle, hein, je vais pas leur... C'est-à-dire que vous êtes une entreprise, vous protégez votre bilan, votre intérêt social, vos profits. Mais quand c'est pas dans l'intérêt de l'humanité, eh ben, il faut être ferme. C'est tout. Il ne faut pas compter sur les entreprises
si
pour driver le changement.
Si on cherche à creuser le « être ferme », c'est comment, de la part d'un État ou des États, parce qu'assez souvent, les nombreux responsables plaidoyers d'ONG qui nous écoutent se rappelleront que c'est la compétitivité nationale française qui va bloquer beaucoup de propositions, il est comment le « être ferme » Qu'est-ce qu'on fait pour créer un nouveau cadre qui ferait en sorte que, pour les dirigeants d'entreprise comme M. Pouyanné, la meilleure façon de faire économiquement, ce soit justement d'arrêter ce genre d'investissement?
Mais en fait, il faut arrêter de toute façon ce type d'investissement, puisque c'est l'Agence internationale de l'énergie qui nous dit...
Mais justement, comment on fait pour qu'eux arrêtent?
On ne peut continuer à investir dans aucun nouveau projet d'énergie fossile. Sinon, on va vers plus de degrés de réchauffement.
Justement, Chloé, a priori...
Je vais répondre à ta question. Donc, comment on fait? Ça veut dire quoi, être ferme? Déjà... C'est faire tout à fait le contraire de ce qu'a fait le gouvernement jusqu'à présent. C'est-à-dire que si on prend le cas de Total très précisément, le gouvernement a laissé Total libre de proposer le plan qu'il souhaiterait pour la transition. Parce que Total n'arrête pas de nous dire « Non, non, mais moi, je vais faire des énergies renouvelables. Regardez, j'investis. » On a laissé Total faire. Résultat, il continue toujours plus à développer les énergies fossiles que les énergies renouvelables. Donc il faut obliger aujourd'hui. Et la puissance publique, elle a quand même des leviers. Elle a le levier du droit, elle peut interdire, elle peut taxer. Donc il faut s'en servir de ces leviers-là. Si, par exemple, je prends le cas très concret des énergies fossiles et de Total, on sait qu'à travers le monde, c'est une étude récente qui est sortie... de l'ONG Éclairci en partenariat avec le journal Le Monde, il existe à travers la planète 425 projets qu'on appelle des bombes carbone. C'est quoi? C'est des projets d'extraction d'énergie fossile. Chaque projet émettra plus d'un milliard de tonnes de CO2. Et en gros, ce sont des projets qui nous mettent totalement dans le mur et qui nous empêcheront de respecter les accords de Paris.
Qu'est-ce qui fait d'après vous?
Non mais juste, comment on peut lutter contre ces projets? C'est là où j'allais en venir.
C'est ça.
Donc, il y a 426 bombes climatiques à travers le monde, bombes carbone. Comment on fait pour les désamorcer? En fait, il y a deux leviers principaux. Déjà, il faut interdire le financement de ces bombes carbone. Total avait un projet en Ouganda dont on a beaucoup parlé qui s'appelait IACOP, qui était une espèce de géant pipeline chauffé sur plus d'un millier de kilomètres. D'accord ? Il a de plus en plus de mal à financer ce projet parce qu'il faut beaucoup d'argent pour construire un projet comme ça. Parce qu'il y a des organisations de la société civile qui se sont mobilisées. Mais en fait, il ne faut pas attendre que des activistes se mobilisent avec leurs petits bras pour sauver le monde. Il faut aussi que la puissance publique et l'État jouent son rôle et donc interdisent aux banques européennes, ça on a quand même la main au niveau de l'Union européenne, même aux banques françaises au niveau de la France, interdire aux banques le financement de tout nouveau projet d'énergie fossile puisqu'on sait que c'est incompatible avec le respect des accords de Paris. On interdit aux banques de financer le terrorisme. On peut très bien leur interdire de financer des projets d'énergie fossile mais, si ça met en péril la l'avenir possibilité de l'humanité.
Technique, la possibilité technique, elle est là, mais ce que j'aime beaucoup justement dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est que vous n'êtes pas dans le manichéisme et vous dites, M. Pouyanet, il est dans sa logique, à nous de changer le contexte. Et si on pose la même question vis-à-vis du gouvernement ou des gouvernements ? Là aussi, j'imagine que vous ne pensez pas que le gouvernement Macron soit rempli de climato-sceptiques. Et à votre avis, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il ne pousse pas dans ce sens-là ? Et là aussi, est-ce qu'il y a une bataille culturelle à gagner ? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avancer pour faire en sorte, justement, qu'on arrive à des initiatives d'interdiction des projets dont vous avez parlé ou autres ?
Si Macron n'agit pas assez, c'est par idéologie. Moi, ce que je vous dis là, quand je vous parle d'interdire le financement des nouveaux projets fossiles, d'interdire aux États de délivrer les permis d'exploitation pour ces projets, c'est du pragmatisme en fait. C'est pas de l'idéologie. Alors que Macron, pour le coup, lui, il fait de l'idéologie parce qu'il croit en la libre entreprise, il croit dans le libre marché, il pense que c'est ça qui va régler nos problèmes. Mais on le voit bien, je pense que même depuis la pandémie de Covid, les gens ont quand même compris que le capitalisme financiarisé, dérégularisé, le marché, le tout marché, ne fonctionnait pas et nous emmenait droit dans le mur. Donc aujourd'hui, on revient sur 40 ans de néolibéralisme, c'est comme ça qu'on l'appelle, et on plaide pour un rôle plus aigu de la puissance publique pour en fait stopper ce chaos à la fois climatique, mais aussi économique, mais aussi sanitaire. Donc oui, je pense que en fait, c'est Macron, c'est comme quand il constate qu'il y a beaucoup d'inflation, d'accord, ces deux dernières années, et le FMI a montré que la principale cause de cette inflation sur l'année qui vient de s'écouler, c'était l'inflation des profits des entreprises qui ont profité de l'inflation pour encore plus gonfler leurs prix et pour gonfler leurs marges, et notamment les profits de l'industrie agroalimentaire. Et la conséquence de l'inflation sur les produits agroalimentaires, c'est quoi concrètement ? C'est qu'il y a des Français qui se privent de manger et c'est qu'on met des antivols sur la viande au supermarché. C'est quand même ça la situation dans laquelle on est. N'importe quelle personne pragmatique face à ça se dirait je vais aller taxer avec mon outil fiscal les super profits de ces industries qui se sont fait se sont fourrés plein les poches sur le dos des gens, quoi, parce que c'est ma responsabilité à moi en tant que puissance publique. Mais non, il fait pas ça. Il dit s'il vous plaît, baissez vos prix, messieurs les industriels. C'était le fameux Bruno Le Maire demande, c'est le ministre de l'économie qui arrêtait pas de dire je demande aux industriels de l'agroalimentaire de baisser leurs prix, je demande. Au final, il demandait, mais il y a jamais rien qui se passait. Et donc c'est devenu un gag, on a dit Bruno demande. Donc ça illustre pleinement l'idéologie qui est celle du gouvernement face aux entreprises.
Pardon de vous interrompre, mais justement, si on réfléchit à dans quelle direction peut-on pousser les choses en tant que responsable de SS, en tant que responsable politique, je pense qu'on sera assez d'accord que ça va être compliqué dans les 3 ans qui nous restent de changer l'idéologie d'Emmanuel Macron. A priori, c'est pas la voie la plus simple. Et est-ce que d'après vous, une partie du chemin, il est dans une bataille culturelle pour changer les représentations des gens, changer les représentations des gens qui votent, que ce soit pour Macron ou d'autres dirigeants dans les démocraties. Et notamment, l'une des choses intéressantes dans votre intervention, c'est que vous dénoncez, tout en comprenant l'intérêt, l'écologie de consensus.
Ça me fait penser à un des rédacteurs du GIEC, des contributeurs du GIEC, qui s'appelle François Gémen, qui a écrit un livre récemment qui s'appelle « L'écologie n'est pas un consensus ». Il a raison, parce que même si une écrasante majorité de la population a intérêt à cette bifurcation écologique. Parce qu'encore une fois, ce sont les plus riches qui polluent le plus, qui contribuent le plus au réchauffement climatique, et les plus pauvres qui pâtissent le plus des conséquences de ces pollutions. Et en réalité, une écrasante majorité de la planète a intérêt à la bifurcation écologique, parce que sinon, il va se retrouver dans des situations de difficulté pour vivre au quotidien. Difficulté que n'auront pas les plus riches, qui pourront toujours s'échapper sur Mars ou je ne sais où, ou s'acheter des îles au milieu de l'océan, comme ils le font. Donc, une majorité de la population y a intérêt. Pourquoi est-ce que, malgré ça, la transition écologique n'avance pas assez vite? C'est pas un problème d'argent. On a montré que pendant la pandémie de Covid, on pouvait faire pleuvoir les milliards. Et on sait que la bifurcation écologique, c'est 2% du PIB de la France investi par an jusqu'à 2030. C'est pas incommensurable. On a cet argent. Donc, c'est pas un problème d'argent. Ça n'est pas un problème de connaissance scientifique. On a tout mappé, on sait dire quel degré de réchauffement il ne faut pas dépasser, quelles seraient les conséquences. Ça n'est pas non plus un problème de connaissances techniques. On sait comment faire de l'énergie renouvelable, on sait comment faire de l'industrie circulaire, on sait comment rénover nos logements, etc. On sait comment faire des véhicules électriques. La bifurcation écologique, donc ça n'est ni un problème financier, ni de connaissances scientifiques, ni de compétences techniques. C'est un problème de justice. C'est parce qu'il y a une poignée minorité qui a des intérêts à ce que rien ne change, dont M. Pouyanné fait partie d'ailleurs. Mais c'est une minorité très puissante. Je peux parler des énergies fossiles, mais je peux parler aussi des entreprises, par exemple, ou de syndicats comme la FNSEA, de grandes entreprises de l'agrochimie qui n'ont pas intérêt à la transition de l'agriculture bio. Enfin voilà, il y a plein de gens à travers le monde, l'industrie plastique, qui ont intérêt à ce que rien ne change. Et ils sont très puissants, ces gens-là. Mais donc, la majorité souhaite la bifurcation écologique, et vous le voyez dans tous les sondages, y compris les gens sont prêts à changer leur mode de vie en profondeur. Et ils se désolent, je crois, de l'immobilisme, du fait que ça n'avance pas assez vite et qu'on voit des mauvaises nouvelles partout dans les informations. On n'en peut plus de ça. Et donc, il faut leur montrer qui sont les responsables de cette situation. Certes, la puissance publique qui n'agit pas assez, mais qui n'agit pas assez pour contrer les intérêts d'une minorité qui a intérêt à ce que rien ne change. Et donc, il faut être beaucoup plus ferme avec cette minorité rétive au changement, avec les entreprises d'énergie fossile, enfin tous ceux que j'ai cités, les industriels, l'agriculture agro-intensive, etc. Et donc, c'est comme ça qu'il faut avancer. Et puis, il faut planifier. Vous savez, il est évident que des tas d'entreprises vont perdre. Oui, si vous êtes une industrie plastique et que vous avez construit votre modèle autour du plastique, bah, vous allez perdre à la bifurcation écologique parce qu'on va vous interdire, on va essayer de diminuer notre production de plastique. Si vous produisez du pétrole, bah, là aussi, oui, vous allez perdre. Donc, il y aura des gagnants et des perdants dans cette bifurcation écologique. Mais en fait, ce qui m'hallucine, moi, c'est que l'économie de marché, elle a toujours fait des gagnants et des perdants. Nokia, on peut en citer des tas d'entreprises qui se sont effondrées. Personne n'a rien dit. Tout le monde a dit « Ah, mais c'est le jeu du libre marché ». Et pourquoi là, quand on parle d'écologie, on ne se dirait pas ça vaudrait plus, ça, cette espèce de création destructrice du fait qu'il y a des entreprises qui doivent, disparaître. Il y a des entreprises qui vont devoir disparaître. C'est ça qui va se passer.
Mais justement,
elles ne font pas leur bifurcation, Total aurait pu survivre. Si c'était devenu, par exemple, un champion mondial des énergies renouvelables. Le problème, c'est qu'il n'a pas fait ce choix pour l'instant.
Est-ce que vous pensez, et ça rejoint aussi la notion d'écologie du consensus, que vous expliquez très bien qu'il y a un groupe d'entreprises aujourd'hui qui ne subissent pas suffisamment de pression pour changer vraiment leur politique d'investissement. Est-ce que, d'après vous, l'une des raisons, c'est le volontariat d'entreprise, c'est la RSE, c'est-à-dire qu'on voit se multiplier des initiatives de la part des entreprises en question qui souvent représentent une partie infinitésimale de leur investissement annuel, qui vont leur donner une image d'acteur du changement? Aujourd'hui, si on regarde, je pense, en termes de bruit médiatique, on voit des acteurs pollueurs qui sont assez souvent associés à des initiatives très vertueuses. La RSE, c'est intéressant. Peu de personnes disent que ça va résoudre les problèmes dans les délais impartis. Même dans les partisans de la RSE, il y a peu qui disent que la RSE va résoudre la crise climatique. Mais beaucoup pensent que ça permet de sensibiliser, qu'un tien vaut mieux que deux tu l'auras, et ce genre de choses. Est-ce que, d'après vous, il y a quelque chose à changer en termes de représentation ou en termes de législation, l'État a le pouvoir aussi sur l'information, autour de cette notion-là, autour de la RSE, autour de cette croyance dans le volontariat d'entreprise?
Bah, moi, je pense que c'est très bien, la RSE, si vous voulez, de sensibiliser les salariés d'une entreprise aux enjeux de la bifurcation écologique ou de la justice sociale en entreprise. Ou, voilà, c'est très bien, mais il ne faut pas, effectivement, comme vous le dites, se faire d'illusions. Ce n'est pas ça qui va changer. C'est à la puissance publique de jouer son rôle. Moi, je crois à ça, si vous voulez. Et je crois aussi à l'implication des salariés dans la gouvernance des entreprises. Parce que quand on associe les salariés à la RSE, c'est bien. Mais ce qui serait encore mieux, c'est qu'ils puissent participer directement à la prise de décision. Moi, je suis au Parti Socialiste. Quand on est socialiste, on croit à la socialisation. Des entreprises, c'est-à-dire l'association, la participation non seulement des salariés à l'actionnariat de l'entreprise, qu'ils en détiennent une partie de la propriété, mais qui participent aux décisions. On croit aussi qu'il faut installer une gouvernance démocratique des biens communs, comme les forêts, les océans, que ce ne soit pas privatisé, que ce ne soit pas des entreprises qui se les approprient et qui décident d'exploiter la ressource comme ça... sur le dos d'une majorité de l'humanité. Donc y a, en fait, cette bifurcation écologique, c'est un changement de logiciel et de mentalité. Ça n'est pas compatible avec un capitalisme dérégulé et ça n'est pas compatible avec le libre marché. C'est ça, comment dire, le changement d'état d'esprit qu'on est, je pense, en train de vivre. Et les gens se rendent bien compte qu'en fait, c'est plus compatible. La RSE, ça fait partie... le fait de croire que la RSE va tout changer, ça accompagne totalement l'idéologie du libre-marché. C'est en gros, les entreprises vont nous sauver, vont faire tout ce qu'il faut. Non, une entreprise, et je ne l'emblâne pas, son rôle, c'est de protéger son intérêt social et de protéger son résultat. Et basta, c'est pas l'intérêt général... l'objet d'une entreprise.
Pour finir sur une note positive, si on réfléchit en termes de rétro-planning, on va prendre pour le coup une méthode d'entreprise et réfléchir en termes de rétro-planning. Imaginons que dans quelques années, sans que ce soit payé par le social, beaucoup de syndicats rappellent à raison qu'il y a un vrai risque, c'est que des améliorations environnementales soient payées par une baisse sociale. Imaginons que dans quelques années, on ait réussi à atteindre les objectifs climatiques. Dans ce type de scénario, d'après vous, il se sera passé quoi pour qu'on réussisse à atteindre les objectifs en question?
ce qui se sera passé, moi, je pense que la bifurcation écologique, elle se joue à tous les niveaux, bien sûr, mais là, vraiment au niveau international. Il faut bien voir qu'on arrivera... à respecter, à limiter les dégâts, parce que respecter les accords de Paris, on n'est vraiment pas sur la bonne route, mais à limiter les dégâts et à réussir la bifurcation écologique s'il y a une bonne coopération au niveau international, parce que l'urgence écologique, elle fait naître quelque chose, elle fait naître une interdépendance entre l'ensemble des pays de la planète qui est plus forte que jamais, puisque la planète est un seul et même système vivant et que les pollutions ne connaissent pas de frontières. Donc quand la Chine ouvre une mine à charbon, ça a des impacts sur nous. Donc on n'a jamais eu autant besoin de se coordonner pour que tous les pays du monde mettent en œuvre une politique de bifurcation écologique, investissent dans les énergies renouvelables, investissent dans l'agriculture biologique. Donc, et alors même qu'on a besoin de cette coopération internationale, qu'est-ce qui se passe ? On se fait la guerre, il y a du conflit partout, de la compétition partout. C'est encore ça, le logiciel des relations internationales. Donc moi, ma grande préoccupation, et une de mes grandes préoccupations dans ce moment-là et dans ces années-là, c'est d'arriver à faire en sorte qu'on parvienne à une vraie coopération entre les peuples, à la COP. La COP 28 aura lieu à Dubaï dans quelques semaines maintenant. Cette COP aurait été très importante parce qu'il y avait notamment sur la table le fait qu'on s'accorde pour la première fois à dire qu'il faut sortir des énergies fossiles. Je pense qu'on n'arrivera pas à ce résultat. Et ça, c'est à cause d'un rapport de force qui est maintenant très clair à la COP, où vous avez d'un côté l'Europe, qui est le groupe de pays le plus ambitieux en matière écologique, et je pense qu'on peut s'en féliciter. L'Europe... qui est main dans la main avec les pays les plus impactés par le réchauffement climatique, notamment les pays du Sud. Et puis vous avez de l'autre côté les États-Unis et la Chine, donc les plus gros pollueurs, qui se font la guerre toute l'année, mais qui, à la COP, se tiennent main dans la main quand il s'agit de refuser des progrès écologiques. États-Unis, Chine, avec les grands pollueurs, les grands producteurs d'énergie fossile, la Russie, l'Arabie Saoudite, et qui, eux, sont complètement rétifs au changement et qui ne veulent pas du tout abandonner le pétrole et penser l'après-pétrole. Donc, il y a un rapport de force entre les pouvoirs publics et les entreprises, mais il y a aussi un rapport de force entre les peuples. Pas vraiment entre les peuples d'ailleurs, plutôt entre les gouvernements, les chefs d'État. Donc moi je crois qu'il faut que la société civile fasse bien davantage irruption dans les relations internationales, qu'elle s'informe, qu'elle fasse pression sur ses gouvernements, parce que là où on a une chance, c'est qu'on est dans un monde aujourd'hui qui est très connecté. On voit des images partout. Quand il y a une révolution, par exemple, féministe en Iran, cette révolution-là peut être soutenue par plein de gens dans le monde entier. Donc, il y a un pouvoir des sociétés civiles qui est très fort du fait de cette circulation de l'information, notamment. Et donc, il faut se servir de cette arme-là que nous avons pour faire pression sur nos gouvernements, pour les obliger à être beaucoup plus ambitieux dans les négociations internationales et dire qu'on les voit, que même s'ils prennent leurs décisions dans des salles obscures, ils doivent nous rendre des comptes. Donc il y a des choses à inventer. Je pense qu'il faut qu'on arrive à faire en sorte que les négociations climatiques se passent autrement, peut-être pas comme ça en chambre close, peut-être avec des représentants de la société civile, etc. Il faut qu'on invente une nouvelle façon de fonctionner, mais c'est là que ça se joue quand même. Parce que, encore une fois, même si nous, on fait tous les efforts du monde, et il faut les faire, au niveau de la France et au niveau de l'Europe, à la fin, ça suffira pas. Il faut aussi embarquer le reste du monde.
On va prendre comme mot de conclusion ce « il nous reste à inventer une nouvelle façon de fonctionner ». Merci beaucoup, Chloé.
Merci beaucoup.
C'était « Mais où va le travail ?», un podcast produit par Orientation Durable et réalisé par Making Waves.